Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Culture Média, ça continue après le rappel des titres de 10h à parler culture avec Max Boublil qui s'apprête à monter sur scène pour son nouveau spectacle. Il va s'appeler Nouveau Spectacle et puis Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Ça va s'appeler Portrait Inattendu. Et puis dans Les Indispensables, La Nuit de la Déprime animée par Raphaël Mesrahi, un thriller américain à ne pas rater sur Netflix. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture, journal qui commence par un nouveau palmarès dans le cinéma. Hier soir, s'est tenue la cérémonie des BAFTA, c'est l'équivalent des Césars en France, mais en Angleterre.
Et oui, à une semaine des Oscars, on continue dans les palmarès. Alors on y va, 7 BAFTA pour le film d'action historique de Sam Mendes, 1917, dont meilleur film et meilleur réalisateur. 3 prix pour le Joker, pour donc 11 nominations. Ils ont reçu, enfin, c'est Joaquin Phoenix qui a reçu le BAFTA du meilleur acteur. Le BAFTA de la meilleure actrice revient à Renée Zellweger pour le biopic Judy sur Judy Garland. Et meilleur second rôle masculin pour Brad Pitt pour sa performance dans le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Et le meilleur. Oui, je l'ai tenté. Hein.
J'ai bien fait.
J'ai tenté le Hollywood avec bien. Le H aspiré. Et le meilleur film en langue étrangère revient au film coréen Parasite.
En région, on signale qu'il y a un évanouissement devant cet accent. Quasiment parfait pour la 6e B. On continue avec un autre palmarès, les prix remis au Festival International de la BD, évidemment à Angoulême.
Dans un contexte où les auteurs de bandes dessinées se sont mobilisés pour dénoncer leurs conditions financières compliquées, entre autres, ils ont d'ailleurs fait une grève de la dédicace vendredi. Mais les récompenses étaient bien là, nous vous en donnons quelques-unes ce matin. Le Fauve d'Or a été décerné à Florent Groisel et Youn Loukar pour leur fresque de 320 pages sur la Révolution française de 1780. Ça s'appelle Révolution, tome 1, puisqu'il y en aura deux autres. Le prix du public France Télévisions revient à Chloé Vary. Elle a seulement 25 ans. Elle a été récompensée pour son album de bande dessinée intitulé Saison des Roses. L'histoire d'une adolescente qui vient de la banlieue et qui va tout faire pour sauver son équipe de foot. Joe Kessler a reçu le Fauve Révélation pour Lucarne et le Fauve spécial du jury pour Clyde's Fans.
Musique à présent, c'est Benjamin Biolay qui annonce son retour.
Annonce faite sur Instagram, évidemment, comme toutes les annonces que nous allons vous démentir après. 2 ans après son dernier album, il revient avec un tout nouveau. Ça sera en avril 2020. Il a justement écrit « Album fini à 2 étapes de vous, prêt à mixer ». On attend donc encore plus d'informations.
Et alors là, l'enchaînement est tout trouvé. Du côté, non pas du tout, justement, l'enchaînement est très bizarre. Du côté de Marseille, le premier musée subaquatique va ouvrir ses portes cet été.
Détendez-vous et imaginez 10 statues géantes de 10 artistes français à 100 mètres au large de la plage des Catalans à Marseille. Elles vont être immergées au printemps par 5 mètres de fond. Ce musée va ouvrir cet été. Il avait été suspendu par le tribunal administratif de Marseille au printemps 2019. Un accord a été trouvé notamment sur la question de la sécurité et de la surveillance du site. Il y aura aussi des cours de natation pour les enfants, des animations avec un vrai programme pédagogique.
J'adore retrouver cette musique du Grand Bleu. Puis on va terminer avec un tout nouveau festival. Festival qui va mélanger cinéma, musique et gastronomie.
Il est comment le croissant ?
Il est tendre, coriace à la fois.
Comme le festival, comme le Pellicula Festival qui se tiendra les 18, 19 et 20 juin prochains au parc de Valmy à Argelès-sur-Mer, créé par David Garcia, Anaïs de Maison et Christophe Sabot, parrainé par François-Xavier de Maison. Alors 3 axes pour ce festival, ciné-concert, notamment le Grand Bleu avec Éric Serra et ses musiciens
qu'on vient d'entendre,
des masterclass avec des projections de courts-métrages. Il y a également la présence de Michael Youn, Nicolas Duvauchel, Audrey Fleurot, entre autres, des concerts programmés Élodie Frégé, Michael Gregorio, Dionysos, Synapson ou encore Fatal Bazooka. Et puis de la gastronomie avec les chefs Juan Arbeles et Julien Duboué avec dégustation de vin. Rendez-vous donc fin juin et sur le site du festival pellicula.fr pour la billetterie.
Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure pour votre portrait inattendu.
À tout à l'heure.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Max Boublil.
Très heureux, c'est le mot. Bonjour Max Boublil.
Bonjour.
Vous êtes comédien, humoriste, on vous a vu dans le film Les Gamins avec Alain Chabat, La Vérité si je mens 3. Vous avez découvert en 2007 avec cette chanson, Ce soir tu vas prendre, extrait.
Et ce soir tu vas prendre...
Chanson... Pré-MeToo. Je sais pas si aujourd'hui on pourrait la faire encore.
Vous savez quoi?
Ça, je commence directement dans le gras. Hein. T'as vu, je prends pas de gants et tout ça. Je sais pas. Oui, je sais pas, c'est une question que je me pose.
Vous savez, ça tombe très très bien parce que vous savez quoi? C'était la première question que j'avais écrite avec MeToo. Vous pourriez sortir une chanson pareille.
Très, très loin tes articles.
Bah non, évidemment, non, c'est pas un article.
Aujourd'hui, c'est plus que c'était.
Mais non, mais c'est la question qui se pose, évidemment.
Oui,
c'est la première question qui se pose.
C'est la question que je te pose. Vas-y, réponds-moi à cette question.
D'abord, vous me dites pas plus. Deuxièmement, vous ne me menacez pas. Troisièmement, c'est à vous de répondre à la question. Est-ce que vous pourriez sortir une chanson pareille?
Et je me pose la question. Je sais pas. Je pense que c'est tout dépend de qui l'a fait, comment il l'a fait. Je pense que à l'époque, j'étais un petit jeune de 25 ans, tout mignon, tout gentil, mais qui s'envoie des fleurs.
Ouais.
Très beau gosse, pas mal dans sa peau et tout ça. Et je me dis que ça prêtait pas à confusion. On comprenait que c'était une blague potache. Aujourd'hui, si c'est un humoriste qui est connu pour des blagues graveleuses et qui parle de cul tout le temps et qui a l'air un peu lourdeau et tout et qui l'a fait, je pense que ça passerait pas. Mais tout dépend de qui l'a fait et du contexte, à mon avis.
Vous n'aviez pas écrit de One Man Show depuis 5 ans. Vous revenez avec un nouveau spectacle. Il s'appelle Nouveau spectacle, c'est ça?
Ouais, on s'est vraiment
mais
pas
fait chier. Mais
c'est quoi ce titre? Autant fait chier sur le titre, autant c'est fait chier sur l'écriture du spectacle.
Mais comment vous allez faire pour le suivant?
Et bon, là, le renouveau spectacle.
Non, mais donc
tout
on va
nouveau
dire.
Spectacle.
Ouais, mais on va dire le nouveau spectacle, mais on va rien comprendre.
Je vais pas te laisser parler.
Mais on va rien comprendre.
Je te tutoie tout au long de
ça sera à l'européen.
Sache-le, j'en ai plus rien à foutre.
Ta gueule, voilà. Ça sera à l'européen. Ta gueule, Max Boublil, sois poli. Ça sera à l'européen à partir de jeudi 6. C'est quoi l'idée de ce spectacle?
L'idée de ce spectacle, c'est écoute, j'étais chez moi, il me manquait un truc. Je faisais des films, je faisais des séries. Je m'occupais de mes enfants et j'attendais le moment où j'aurais des choses à raconter, des choses à dire pour remonter sur scène, parce que la scène me manquait, vraiment. Et au bout de 5-6 ans, j'ai commencé à écrire, ça fait 2 ans que j'écris dans mon coin, que je teste en scène ouverte. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai un spectacle, j'ai quelque chose à dire, j'ai un propos, j'ai des choses à raconter, et je suis monté sur scène, et ça fait rire les gens.
Mais les choses à raconter, c'est d'abord que vous êtes marié, et surtout vous avez eu 2 enfants, 2 filles, ça change quoi ?
Ça change tout. Déjà, je me lève très très tôt le matin. Je pense que j'ai pas dormi depuis 2013. Ça change tout.
Mais c'est vrai.
J'en peux plus. Je m'endors à 9h30 devant la télé, épuisé, ou souvent dans le lit de ma fille parce que j'essaie de l'endormir.
Elle a quel âge l'aînée?
L'aînée a 7 ans.
C'est quel genre? Vous dites, c'est une Kaira.
Ah, c'est la petite qui est une Kaira.
Elle est méchante. Ah,
vraiment.
La petite.
Elle parle salement alors que moi, je pense lui avoir donné une bonne éducation. Elle me dit genre, elle croit pas au Père Noël. Elle me dit genre un gars il va descendre de sa cheminée risquer de brûler son derche pour offrir des cadeaux à des gars qu'il connaît pas. Elle m'a dit c'est nain frère. Je lui dis déjà c'est pas frère c'est père, tu arrêtes. Enfin vraiment c'est des Kaira, ouais, c'est des vrais Kaira. Elle m'a dit le Père Noël je le baise. Je lui ai dit tu baises personne dans cette maison, hein. Personne ne baise personne dans cette maison. Je suis bien placé pour en parler.
Vous êtes toujours avec la maman?
Oui, bien sûr.
Elle nous écoute.
Ce
salut,
des boutades,
hein.
Évidemment.
Bien sûr, des boutades. Non, en vrai, racontez. Alors, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, j'aimerais bien avoir le vécu de Max Boublil. Comment ça se passe le matin devant l'école avec les parents d'élèves?
Eh bah, écoute, c'est vrai que le matin, je vais prendre des cafés avec les parents d'élèves. Déjà, c'est marrant parce que les parents d'élèves, déjà, quand tu arrives à l'école, tu sais que selon le moyen de locomotion, tu vois à quelle classe sociale ils appartiennent.
Ah, bah oui.
Bah, t'as les bobos qui arrivent en vélo, tu sais qu'ils tendent un Tupperware à leurs enfants parce que la cantine n'est pas bio. Ils veulent nous tuer, Capucine. Avec Balthazar, on est à 2 doigts de l'enlever de l'école. Voilà, tu as le gosse à côté, il est tout blanc parce qu'il mange pas assez de viande rouge. Il y a des baskets en chanvre Véja. Après, tu as les parents de droite, tu sais, qui arrivent en Porsche Cayenne en se garant sur les places handicapées, toujours avec une nounou asiatique à côté d'eux dont ils connaissent pas le prénom, qu'ils appellent Merci Chang. Ah non, moi c'est Nyaho. Oui, c'est ça qui m'en a. Voilà, enfin bref, j'étudie tout ça, j'étudie les nouvelles modes. Par exemple, la mode de faire un bisou sur la bouche de ses enfants. C'est vrai qu'à l'école, je me rends compte tous les matins qu'il y a des parents qui font des bisous sur la bouche de leurs enfants. Et je trouve ça bizarre parce que je me demande comment va grandir l'enfant quand il va commencer à avoir, je sais pas, des petits copains, des petites copines, et qu'une fille un jour va lui dire bah vas-y embrasse-moi sur la bouche, va faire non ça me rappelle mon père. Je veux dire que ça, tu vois, c'est des nouvelles traînes comme ça. J'observe tout ça tous les matins et je me suis dit faut le raconter dans un spectacle.
Oh là là, et il s'est passé plein de choses depuis que votre dernier one man show, il y avait pas Greta Thunberg, pardon.
Ah oui, ça, je fais une vanne dans mon spectacle, mais je pense que c'est pas une vanne qui passerait bien en radio.
Vous savez quoi, vous l'avez hors antenne alors.
Ouais, bien sûr.
Et vous irez voir cette vanne sur la scène de l'Européen, ça démarre jeudi 6. Mais vous restez avec nous, Max Boublil.
Avec plaisir.
À tout de suite.
Oui, Max Boublil qui est notre invité dans un instant grâce à Hélène Manarino. On va découvrir votre portrait inattendu, Max Boublil.
Je sens que ça va être savoureux. C'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est alors Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Inattendu et très attendu. Max Boublil, vous connaissez Hélène Manarino?
Bien sûr, de réputation.
Voilà, elle aussi elle vous connaît. Elle aussi elle vous connaît de réputation. Hélène.
Bonjour
Hélène.
Max Boublil. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Maxounette, Maxou ou Lif, vos surnoms, on peut dire aussi celui qui n'a jamais vraiment voulu grandir. Vous avez récemment appuyé sur Play au cinéma pour nous faire vivre la vie de vos personnages. Et si on appuyait sur Play pour regarder la vôtre? Et il nous faut plusieurs VHS. On est d'accord déjà que la bande originale globale, c'est ça.
Ah ouais, exactement. Musique qu'on voulait mettre dans le film Play. Mais je me suis dit, je vais peut-être rentrer. Attends, je te coupe ton portrait quand je te parle, hein, c'est ça. Je fais fermer ma gueule. Je
vais avoir... Non, mais vous pouvez réagir. Alors, nous sommes quand même dans l'ambiance. VHS 1, enfant rieur, blagueur, doté d'une imagination assez incroyable, passionné par votre cochon d'Inde, votre souris Albert et votre petite gerboise Coucouche. Vous aviez créé une petite famille. Alors, elle ne valait pas votre famille de peluches que vous mettiez en scène derrière le canapé pour faire des spectacles et récupérer de l'argent, surtout. Jamais sans votre couverture doudou. Appelé mon foum. Alors vos goûts pour les bonnes choses étaient déjà très prononcés puisque dès l'âge de 2 ans, en plus des comptines en russe, il y avait ça qui résonnait en vous.
Oui. Ah oui. Je réponds.
Oui.
Je réponds. Oui, c'était ma nounou qui me mettait dans Dallas. Voilà.
Ouais.
Elle aurait pu m'amener au musée d'art moderne, me montrer des peintres et tout. Non, mais elle m'a mis Dallas dans les oreilles. C'est peut-être pour ça que je suis aussi bête aujourd'hui.
Alors son univers impitoyable, et vous étiez impitoyable parfois, notamment avec les clientes qui sortaient du salon de coiffure en bas de chez vous. Vous leur balanciez des préservatifs remplis d'eau. Vous avez aussi fugué tout un après-midi avec votre copine Nino. Mais surtout, Max, vous excelliez dans vos histoires de science-fiction que vous inventiez avec des mots totalement imaginaires. À 7 ans, vous tourniez des films d'horreur avec vos copains, comme celui-ci par exemple, Assassinat de la babysitter. Alors,
oui, c'est vrai.
Bah oui, j'avais des babysitters suédoises qui étaient très jolies et souvent on les faisait jouer dans les films et on finissait par les assassiner avec du ketchup, mais comme c'est le cas dans le film Play, on a ça.
Bon, heureusement que votre voyage de classe pour observer les oiseaux de la baie de Somme vous a totalement
calmé. Je sens que ma mère a parlé, parce que même moi je me souvenais pas de cette histoire.
Passons à la VHS numéro 2, le papa poule. Et oui, Max Boublil, sacré papa, dès que votre réveil sonne pour emmener vos filles à l'école, vous dites, mon Dieu, que c'est tôt l'école. Eh bien, oui, vos filles que vous collez pour leur faire écouter ça. Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. C'est ça qui écoute ça. Ouais.
Votre gang, justement, quand vous vous retrouvez tous les quatre, vous faites le jeu du sandwich. Vous êtes allongés les uns sur les autres et le premier qui tombe a perdu. Emmenez toute votre famille aussi sur votre terre de prédilection.
On est habillé, on est en pyjama. On n'est pas dans les années 70.
Emmenez toute votre famille aussi sur votre terre de prédilection, Arcachon, au Moulot aussi, et surtout, prononcez cette phrase, mes bébés, elles sentent la gaufre, finalement la plus belle odeur du monde. VHS numéro 3, l'indécis et le peureux, comme tous les hommes, mais votre phobie, perdre vos cheveux, vous avez déjà répertorié tous les chirurgiens, au cas où, évidemment. Quand vous avez peur de vous faire voler votre scooter, vous êtes capable de le scotcher entièrement.
Comment ça? Comment ça vous le scotchez?
Quand j'étais plus jeune, ouais, j'avais acheté un nouveau scooter, j'avais peur qu'on me le vole, alors je l'avais défoncé moi-même, j'avais mis du scotch, j'avais fait des trous pour pas qu'on me le vole.
Oui, il vole jamais le plus moche.
Bah non, il vole jamais le plus moche.
Peur d'être malade aussi, vous étiez très proche de votre oncle médecin, vous alliez le voir tous les jours, et à chaque consultation, il vous disait... Prozac.
Ouais.
Alors, vous avez...
C'est vrai.
Avez préféré les Nicorettes que l'on retrouve dans tous les recoins de votre maison. Mmh. Alors, Max Boublil, vous n'arrivez jamais à vous décider sur la pointure de vos chaussures de ski. Vous vous trompez toujours de plat au resto. Et d'ailleurs, dès que vous terminez votre repas, vous dites systématiquement, je n'aurais pas dû prendre ça.
C'est vrai. Je vais dire, ah merde, je ne vais pas digérer, ça me fait grossir. Ouais, c'est vrai.
Vous avez souvent hésité entre les soirées entre amis très festives pour danser sur ça.
Ouais, c'est les années 2000.
Ou rentrer tôt le samedi pour regarder On n'est pas couché. Ouais. Eh oui. Terminons donc par la VHS du passionné. Et oui, Max Boublil, quand vous aimez quelque chose, vous y allez à fond. Comme faire un aller-retour aux États-Unis juste pour aller dans le berceau de votre musique préférée, le grunge. Pleurer devant Rocky quand Mickey meurt. C'est la seule fois où vous avez pleuré d'ailleurs. Alors, lorsque votre maman était enceinte, elle avait croisé Michou, ouais, qui lui avait dit « Ce sera un garçon, il sera artiste et il sera très obsédé par ses cheveux. »
Non, c'est vrai. C'est vrai. Oui. J'étais très triste à sa mort.
Mais oui.
Parce que je me suis dit « J'ai jamais pu lui dire ça. » Bon, c'est une anecdote, mais oui, il a dit ça et il avait raison sur tous les points.
Le prince bleu de Montmartre, récemment disparu, avait donc vu juste. Mais entre personnes créatives, populaires et joyeuses, on se reconnaît.
Merci Hélène.
Merci Hélène.
Vous êtes reconnue ?
Tout à fait, c'est un vrai portrait. Je vois qu'elle est bien renseignée. Je sens que des gens ont balancé et c'est très mignon. Écoute, oui,
ça va se payer cher.
Ça va se payer très cher. Oh, je suis gêné. Je suis un mélange de gêné et d'énervé. Mais
et vous êtes...
non, c'est très mignon. Non,
et blague à part, vous êtes fan de VHS ? Vous en avez encore ou pas ?
J'ai encore des VHS avec mes copains avec qui on tournait des petits courts-métrages et des trucs. Et c'est marrant parce que dans mes copains, bah voilà, il y a Anthony Marciano avec qui j'ai tourné ses films. Il y a Rudy Rosenberg qui est devenu réalisateur, qui a fait Le Nouveau, qui est un film très très acclamé par la critique et qui est un gros réalisateur. Maintenant, c'est marrant de savoir que dans cette bande de potes, bah, on a tous plus ou moins connu certains succès et on est tous plus ou moins devenus artistes. Quoi.
Mais il vous reste pas de VHS ?
Il me reste des VHS.
Parce que je veux dire, info que j'ai entendue ce matin au 5-6 de Julien Pire, c'était Omblin Roche qui racontait ça. Il y a le retour de la platine disque, il y a le retour de la VHS. Bah,
ça serait super.
Et il y a des prix sur l'équivalent américain du Bon Coin, ça monte jusqu'à 54 000 $ la VHS. C'est des VHS de Mulan ou de je ne sais plus quel dessin animé de Disney, mais dans la version d'origine. Génial. Et aussi très très cher, la VHS, si vous l'avez, de Massacre à la tronçonneuse.
Ah non, je n'ai pas l'original. Ouais. C'est fou, 50 000 euros pour une VHS.
Ouais.
C'est devenu un objet collector, quoi,
ouais,
comme
exactement.
Le vinyle à l'époque.
Voilà. Et mais d'après mes infos, il vous reste des vieux films d'M6 du dimanche soir.
Ouais. Max Boublil est notre invité. Avec lui, dans un instant, on va découvrir nos indispensables du jour. On va parler d'un film Netflix avec Margot Barallon et de la nuit de la déprime avec Angèle Châtelier sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est l'heure de nos indispensables du jour. On va parler d'un film Netflix dans un instant avec Margot Barallon. On va aussi parler de la nuit de la déprime avec Angèle Châtelier. Et on va en parler avec notre invité Max Boublil qui, lui, sera sur la scène de l'Européen du 6 février au 28 mars.
Nouveau spectacle, j'adore quand vous dites qu'ils sont partout. C'est pas ce qu'on croit, il n'y a rien de religieux, ils sont partout, les véganes.
Ouais. Oui, ouais, je vais pas me faire que des copains sans ce soir. En plus, c'est diffusé. Hein. C'est-à-dire que des gens vont écouter ce que je vais dire. C'est pas grave. Oui, c'est vrai que je dis. Non, mais je suis toujours étonné parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait très attention à ce qu'on mange. Il ne faut pas manger de viande rouge, il faut manger de la viande blanche ou pas de viande. Il ne faut pas manger des gros poissons parce qu'il y a du mercure dedans. Il faut manger des petits poissons. Et j'ai vu que même McDo s'est mis à mode vegan. Ils ont fait un Mac vegan. Et je m'interroge là-dessus dans le spectacle. Je me dis, mais quand t'es vegan, tu vas pas au McDo. Quoi.
Ouais.
Enfin, pour moi, un vegan qui va au McDo, c'est un mec qui va dans un. dans un club échangiste juste pour baiser sa femme, quoi. C'est bizarre. après, j'ai d'autres petites pensées sur les véganes. Ouais. Voilà, je vais les garder.
Non, c'est bien, mais puisque vous êtes sur
le... voilà, ça me fait plaisir d'être devenu réac. Hein.
Voilà. Puisque vous êtes sur votre femme, vous êtes marié et vous parlez du mariage.
Ouais, je dis que le mariage c'est un drôle de concept parce que j'ai ma meuf qui écoute, je vais me faire tuer.
Ouais.
J'ai fait une énorme teuf pour fêter quoi ? Qu'on va coucher avec la même meuf toute notre vie.
Ouais.
Et que nous les mecs, on fait ouais, allez, c'est parti, ouais, c'est comme si on disait t'aimes le rôti de veau. Ah ouais, bah, tu vas manger du rôti de veau toute ta vie. Ah, je peux pas manger un petit tonton, non, un petit nugget, non, sinon ça te coûtera la moitié de tout ce que t'as.
Ouais, elle va être vachement contente, ah, votre femme, contente, d'être comparée à un thon ou à un rôti de veau au choix.
C'est
quelle élégance dans le choix des mots.
Ouais.
Et vous parlez aussi du divorce, évidemment.
Je dis ouais.
Avec une analyse, cette fois-ci.
Oui, c'est une disons que c'est mon petit côté un petit peu analytique sur ce spectacle, mon petit côté sociétal. Oui, je vais que, voilà, le divorce, parce que j'ai beaucoup de. C'est vrai que j'ai la quarantaine et je viens d'avoir 40 ans et tous mes potes ont divorcé tous et ils sont tous un peu rincés et je me dis que le divorce ça coûte cher et que c'est un truc de riche. Je dis que les riches divorcent et les pauvres privilégient l'accident domestique. Jurisprudence Jonathan Daval.
En fait, vous n'êtes pas divorcé.
Non, ni marié d'ailleurs.
Hein, bah, ça, vous n'êtes pas marié, ça on le sait. Hein. À chaque fois, elle nous le raconte.
Marie, la pauvre, elle se fait larguer beaucoup. Pardon, excuse-moi, on parle du spectacle.
Non, Angèle, fait ici des chroniques musique, mais il y a un genre qu'elle adore, ce sont des jeunes chanteuses qui racontent leur séparation et leur dépression.
Parce que ça lui parle.
Oui, et en plus, c'est des très très bonnes chanteuses, ça fait des très très bonnes chansons.
C'est souvent
la dernière fois, c'était absolument magnifique. Mais là, cette fois, elle ne va pas nous parler de musique, parce qu'elle a une idée un peu plus joyeuse que ça, c'est la nuit de la déprime.
Oui, alors bon, dit comme
toi,
ça.
Toi, tu dois avoir un chat.
J'ai un gros chat roux, effectivement.
J'ai eu peur que tu me dises que tu avais un chien, parce que pour moi, le chien, c'est l'étape après le chat, et généralement, il n'y a plus grand monde qui passe à la maison.
Je ne réagirai pas. Bon, ce soir, c'est la traditionnelle nuit de la déprime organisée par Raphaël Mesrahi. Voilà, on se met dans l'ambiance. La nuit de la déprime, c'est ce soir aux Folies Bergères à Paris, à 10 jours de la Saint-Valentin. Je dis ça, dis rien. Des dizaines d'artistes sont invités à chanter leurs chansons les plus tristes pour bien déprimer tous ensemble. Mais alors rire aussi, parce que rien que quand l'idée de faire une telle soirée a germé dans la tête de Raphaël Mesrahi, c'est drôle.
Alors j'écoutais Nicolas Perrac, et c'est une chanson qui s'appelle Marie l'inexorable. C'est l'histoire d'un mec qui rentre chez lui avec ses enfants et sa femme. Et comme il pleut beaucoup, donc il monte au grenier, puis là d'un seul coup il se prend une poutre, et puis il reste coincé. Et il explique que l'eau monte inexorablement et que la maison n'en a plus pour longtemps. Sa femme essaye de sauver les enfants aussi, qui voient quelque chose, parce qu'en plus elle est aveugle, et puis à la fin tout le monde meurt. Donc je dis tiens, c'est marrant.
Marie, il n'est plus temps. Marie, mais sauve les enfants.
Voilà, alors, une étude est sortie en 2014. Écouter de la musique triste permet de se sentir mieux. Et dans le top des chansons les plus déprimantes, il y a par exemple la sonate au clair de lune de Beethoven.
J'adore. C'est la musique d'American Psycho.
Oui. Alors, c'est la première que j'ai apprise au piano. Voilà. Alors, je confirme.
Comme par hasard.
C'est bien déprimant. Alors, cette année, niveau artistes déprimants qui viendront chanter des chansons déprimantes, on est servi. Il y aura, par exemple, Maxime Le Forestier.
Mourir.
Je sais que c'est mourir.
Alors, il y aura aussi la chanteuse Marie-Fleur et Philippe, sachez qu'on n'y est pas pour rien.
Te pige qu'à ton retour, tu piges.
Raphaël Mesrahi, une réaction.
Ah mais moi je suis complètement fan.
Elle est incroyable.
Ah non mais moi je fonctionne à l'instinct. Je rencontre des gens et j'écoute des gens, mais je l'invite si elle m'écoute le 3 février, nuit de la déprime aux Folies Bergères pour chanter, parce que c'est absolument remarquable.
Bah c'est dit.
Vraiment. Et vous vous mettez en rapport, enfin je sais pas.
Avec plaisir.
Ok, vraiment.
Voilà, donc
et je me souviens très très bien,
exactement.
Il était là avec nous, Raphaël
en
Mesrahi.
Octobre dernier. Donc il y aura aussi à la nuit de la déprime un certain Vianney ou encore Eddy Mitchell. Ouais.
C'est vrai que t'as fait un peu le cafard.
Ouais. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que ça fout le cafard, en même temps ça nous fait marrer, on est tous là en train de se bidonner.
Exactement, heureusement l'esprit humain est composé d'humour noir et d'humour tout court. Alors il y aura aussi des humoristes, ce soir tout est prévu. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y aura aussi des mouchoirs à l'entrée, un lit pour pouvoir pleurer. Si on apporte son ordonnance, on peut même gagner des billets d'avion. Mais alors apparemment, tout le monde ne joue pas le jeu.
Et j'ai appelé Stana les Montescaliers. Et bah, eux, ils n'ont pas voulu. Ils m'ont quasi raccroché au nez parce que je voulais avoir une mamie qui monte et qui descend pendant une heure dans le hall d'entrée sur le monte-escalier, quoi, et avec un panneau « Essayez le monte-escalier avant l'âge ». Et là, ils m'ont raccroché au nez, quoi, parce que je trouvais ça marrant, quoi.
C'est drôle. Alors, une dizaine d'humoristes et d'artistes viendront ce soir. La totalité de la billetterie, sachez-le, reviendra à des associations pour les animaux. La nuit de la déprime, c'est aux Folies Bergères, parce qu'on adore déprimer tous ensemble.
Réaction ?
Moi, je suis un peu agacé qu'elle fasse de la pub pour autre chose que mon spectacle.
Ouais.
Je te dis la vérité, hein. Même si je trouve que l'idée est géniale.
On ne sait pas comment vous déprimer.
Je suis toujours un peu jaloux.
C'est oui, marrant, bah, voilà.
Ce côté.
Non, pas du tout. Je vous dire un truc. La nuit de la déprime, c'est ce soir.
Mais
et votre spectacle.
C'est
commence
semaine,
le 6.
C'est jeudi, oui.
Non,
je
serais même pas en compète.
Oui,
non,
oui,
même
sûr.
Pas. Et on
mais
va écouter.
Quand même, ça m'agace quand même. Pardon.
Et c'était pour.
C'est jalousie inhérente.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Max Boublil qui est notre invité ce matin. On va continuer à parler de son actualité dans un instant. Mais avant, Philippe, on continue à faire
on
le tour de nos indispensables du jour.
En attendant.
On va parler d'un film Netflix avec Margot Barallon.
Bonjour Margot, ce matin, vous avez un film Netflix à nous conseiller.
Oui, ça s'appelle Uncut Gems, Pierre Brut en français. C'est sorti vendredi sur Netflix. C'est comme le titre l'indique bien, il sera donc question de pierres précieuses. Le film se passe dans le quartier des Diamantaires à New York. C'est l'histoire d'Howard Ratner, un bijoutier juif incarné par par Adam Sandler, qui va acquérir une opale noire, une pierre très rare.
C'est pas de la bombe, sérieux, ça? C'est un morceau d'histoire que tu tiens là.
Ça fait combien de carats, ça?
Ah, je dirais bien 4 ou 5 000 carats, à 3 000 $ le carat. Ça... Ah ouais, non, mais je déconne pas, c'est vrai.
Alors, l'homme qui est très intéressé par la pierre dans cet extrait, c'est Kevin Garnett, star du basket aux États-Unis, qui joue son propre rôle dans le film. Garnett est persuadé que cette opale va lui porter chance pour son prochain match, et il est donc prêt à l'acquérir coûte que coûte.
S'il me faut cette gemme.
Oh, fais chier, merde, je l'ai mise aux enchères, je peux pas te la vendre, je suis désolé.
Bah, laisse-la moi pour un soir alors. Ouais, voilà. D'accord? Tu me la laisses jusqu'à demain.
Je vais au match, tu me la récupères pour toi, et je te retrouve chez Adlis demain à la première heure.
Cool.
Et boum.
Boum. Ouais. Voilà, facile.
Boum, voilà, facile.
Ouais, maintenant je vous connais, je sais que quand elle dit facile, c'est que c'est pas facile en vrai.
Non, évidemment, à partir de là, tout dérape, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Howard a une fâcheuse tendance à jouer l'argent qu'il n'a pas. Il est criblé de dettes, poursuivi par tout un tas de mafieux qui lui réclament des remboursements. Cerise sur le gâteau, Howard est en train de divorcer. Lorsque sa maîtresse le trompe, il essaie alors, logique, de récupérer sa femme, et ça ne se passe pas comme prévu.
Je t'en supplie, Dina. Allez, donne-moi une chance.
Tu sais quoi, Howard?
Dis-moi oui, quoi?
Je crois bien que tu es la personne la plus insupportable que j'ai jamais rencontrée. Je supporte plus d'être à côté de toi, je déteste te regarder. Et si ça tenait qu'à moi, je te reverrai plus jamais de ma vie. Plus jamais.
Mais c'est une comédie, parce que là on rigole, ou c'est un thriller?
Non, alors on rit un peu, c'est vrai, mais c'est quand même un thriller épuisant même, puisque pendant 2h15, on va suivre Howard qui court partout, ça va très vite, c'est galvanisant, il y a une esthétique moi qui m'a rappelé certains films de David Fincher, notamment Fight Club.
Ah, vous j'adorais, savez, bien cette, sûr, c'était génial, Fight
cette
Club.
Image un peu verte avec du grain, ouais. On pense aussi à des clips de rap, et ça n'est pas du tout un hasard, puisque les réalisateurs, ce sont deux frères, Josh et Ben Safdie, ils ont déjà fait 4 films avant, mais en 2017, ils ont réalisé un clip pour le rappeur Jay-Z. Ils ont travaillé en fait avec le même directeur de la photographie pour ce clip et pour le film Uncut Gems.
Et vous me parliez aussi de l'acteur Adam Sandler qui vous a beaucoup impressionné.
Oui, Adam Sandler, c'est un comique au départ. Alors à 2 ou 3 exceptions près, il a surtout joué dans des films qui n'ont vraiment pas marqué les esprits. Là, il est complètement transformé. Diamants aux oreilles, gourmettes et chaînes en or partout, un bouc dégueulasse. Il est quasiment de tous les plans. Il porte vraiment le film. Et ça marche très bien parce qu'en fait, il joue pas Howard comme un pur mafieux dur à cuire. Il a aussi un côté vulnérable, touchant. Et ça, c'est important parce que ça permet au film de pas tomber dans la critique un peu simpliste de l'argent roi. C'est vrai que le milieu filmé, celui des diamantaires, il est clinquant, vulgaire. Le principal objectif de tous les personnages, c'est juste de posséder des trucs qui brillent. Mais le film ne porte pas de jugement moral. Et ça, ça tient aussi à l'empathie qu'Adam Sandler arrive à susciter pour son personnage.
Non, ça fait envie. Uncut Gems, disponible en ce moment sur Netflix. Ça vous tente, Max Boublil?
Oui, j'ai failli le mettre hier, pour être c'est tout pas à vrai. Fait honnête. Ouais, je suis passé devant. J'avais envie, j'aime bien Adam Sandler. Je trouve que c'est un comédien qu'on a connu par des grosses comédies et après qui s'est affirmé dans un peu d'autres styles et qui est un bon comédien. Et il me fait rire sur scène, il me fait rire au Saturday Night Live où il était, et c'est un comédien que j'aime bien. C'est vrai que le pauvre, on lui catalogue un peu dans la grosse comédie alors qu'il a fait Punch Drunk Love,
oui, de Paul Thomas Anderson.
Voilà, moi c'est un comédien que j'aime bien, ouais, j'avais envie de le voir hier, j'ai failli.
Et sinon, vous avez fait quoi finalement? Vous êtes allé vous coucher parce que vous étiez levé à
5h
du matin?
J'ai regardé l'Union Sacrée avec Patrick Bruel et Richard Berry, un vieux film des années 80.
Ah oui, ce que j'allais dire, ça vient pas de sortir
ouais,
ça.
Ouais, non, mais ça passait à la télé, ça m'a rappelé moi, ma petite enfance.
Formidable. Vous avez un autre choix à nous recommander comme ça?
De série ou de film?
De ce que vous voulez.
Tout ce que
génial.
Vous... Moi, je regarde Succession, c'est une série que j'adore sur OCS et qui est une énorme série. Et voilà, je suis fan de Succession.
Margot nous a dit tout le bien qu'elle en pensait, et moi, vous savez quoi, j'ai failli la regarder hier, donc je plaisante.
La dernière partie de Culture Média avec notre invité Max Boublil, c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est la dernière partie de Culture Média avec nous toujours Angèle Châtelier et Margot Barallon et notre invité Max Boublil qui sera sur la scène de l'Européen du 6 février au 28 mars.
Le 6 février, c'est jeudi.
Oui.
Max Boublil, on entend beaucoup des humoristes dire à ce micro et ailleurs on ne peut plus rien dire. Vous allez plus loin, vous dites on ne peut plus rien faire.
Oui, à un moment dans ce spectacle, je cite Michel Sardou pour vous dire que j'ai vieilli, j'ai pris un coup dans la gueule. Et je dis, parce qu'à un moment, Michel Sardou, je crois que c'est chez Europe 1 ou chez, je sais pas, une radio concurrente, il a dit on peut plus rien faire, on peut plus conduire vite, on peut plus baiser, on peut plus rien faire. Et à un moment je le cite, je parle de ça, et c'est vrai que on est dans une époque où tout est un peu policé, il faut faire attention à tout, et c'est vrai qu'à un moment je dis voilà, j'ai les non-fumeurs ont gagné, on peut plus fumer nulle part, et j'ai peur du moment où les non-baiseurs vont gagner, où voilà, ils nous colleront des photos de moches sur les parties génitales et ça marchera. En plus, tu ramènes une meuf chez toi, tu la déshabilles, tu commences à lui faire, tu l'enlèves la culotte, et là au-dessus de la tâche, Martine Aubry. souris. Bah, par exemple, voilà, ça empêcherait de passer à l'acte. Voilà, je m'énerve un peu contre. Oui, c'est un petit fond réac à la fin de ce spectacle. Un petit
mais
côté, on ne peut plus rien dire.
Vous êtes nostalgique des années 90 en soi.
Oui,
parce que sur l'affiche, on vous voit avec des logos, tout l'habillage des années 90. Est-ce que c'est parce qu'on était mieux ou est-ce parce que vous êtes simplement nostalgique de vos 20 ans en Espagne? Ils ont un proverbe que j'aime beaucoup. Ils disent sous Franco, on était jeunes.
C'est drôle, mais et ça fait peur en même temps. Mais oui, je suis nostalgique. Oui, peut-être que c'était mieux. En tous les
c'était
cas,
mieux
c'était
sans
très
portable,
différent parce qu'on
n'avait
pas les réseaux sociaux. On n'était pas jugé tout le temps.
Ouais.
On demandait pas l'avis de tout le monde. Aujourd'hui, on peut demander l'avis de tout le monde et tout le monde peut s'exprimer. C'est très bien. Et en même temps, il y a un côté un peu des fois. Parfois, il y a des gens, il ferait mieux de fermer leur gueule.
Ouais.
Donc c'est un peu flippant. Et oui, moi je me souviens de mon époque. Et on enregistrait les chansons à la radio sur des cassettes. Fallait attendre. Il y avait tout un charme de cette époque. Alors peut-être que je suis en train de devenir un vieux con, c'est très possible. C'est très possible, mais c'était
le harcèlement par définition. Je crois qu'un enfant sur cinq subit le harcèlement à l'école. Il y a des violences absolument dingues, ça peut conduire jusqu'au suicide, et ça n'existait pas de fait puisque les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 20 ans, sans dire que c'était mieux avant.
T'avais quand même des harceleurs à l'époque, hein. Tu pouvais te faire harceler, c'était sûrement moins puissant, mais ça c'est un drame, ça c'est un fléau. Moi j'ai très peur, moi, avec mes enfants, je leur demande de tout me raconter à l'école. Je leur dis comment ça s'est passé, il y a une copine qui t'emmerde, vas-y dis-moi pourquoi elle t'emmerde, machin. Bon, j'ai envie de me fighter le matin quand j'arrive et tout, j'ai envie de t'as mal parlé à ma fille, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi. Mais ouais, il faut faire très attention à ça, je suis super à cheval. Mais j'ai l'impression que ça existait à toutes les époques, le harcèlement. Moi je suis un enfant qui a été harcelé, ce qui m'a donné le côté,
c'est pas vrai.
Pas harcelé, mais un peu par moment on était un peu moqué, un peu
sur vilipendé. Quoi vous moquez, pas sur vos cheveux?
Sur mes cheveux, sur mon, parce que j'étais le plus grand souvent, donc vous inquiétez pas, ça passe à un moment. Tous les harcelés après ça devient des hommes politiques, des hommes qui gagnent après, parce que les petits gros du fond de la classe, vous inquiétez pas, on a nos revanches après quand on a 30-40 ans. Généralement, on se tape les plus jolies meufs.
Voilà, ça devient
un message
des humoristes.
À tous les bullies.
Play, c'est toujours à l'affiche.
Des humoristes.
C'est votre film, il faut que je raconte.
Et un enfant pas assez harcelé, ça devient un youtubeur.
C'est fou. Play, c'est à l'affiche, je raconte
c'est
ce que c'est.
L'affiche.
C'est un peu comme The Blair Witch Project, sauf que vous racontez votre jeunesse, les VHS, et vous racontez toute
en
votre
fait,
vie et ces années 90.
Qui a eu un caméscope quand il avait 13 ans en 1993 et qui a filmé toute sa vie jusqu'à ses 40 ans et qui a fait le montage des meilleurs moments de sa vie. Donc tu passes à travers les booms quand il était petit, les actions ou vérités, tu le vois grandir, le 11 septembre et tout ce qui s'ensuit.
Et le permis de conduire, c'est authentique ce que vous racontez ?
Oui, c'est vrai que le premier jour de mon permis de conduire, j'ai eu un accident, un accrochage avec un mec à qui j'ai fait une queue de poisson malencontreusement et qui m'a poursuivi avec un tournevis qui voulait me tuer. Et moi j'ai fait le geste de tous les mecs un peu courageux, j'ai actionné le verrouillage centralisé des portes et il tapait comme ça et j'ai réussi à m'enfuir.
Et le moniteur de l'auto-école, il disait quoi?
Non, c'est, je l'avais eu, hein. Je venais d'avoir. D'accord. À l'époque, on nous donnait un petit papier
dès
que tu l'avais. C'était le jour où j'ai eu le petit papier.
Ouais. C'est quoi votre prochain projet? Vous le savez déjà, il y a ce spectacle.
J'ai ce spectacle. Ensuite, normalement, je dois faire un film en avril.
Ouais.
Voilà, et je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas encore sur les rails, comme on dit. Mais j'ai plein de trucs. Ouais.
Vous avez quel âge dans le film qui va arriver? Parce que vous avez dit, on ne me propose jamais des rôles de mon âge. C'est toujours des gars qui ont 10 ans de moins que moi. Parce que là, vous allez jouer un quadragénaire, enfin.
Ouais, mais on ne me propose pas encore de rôle de mec avec des enfants et tout ça. Un quadragénaire qui est encore un peu un
ado.
Mais
là, ça va être
justement.
Quoi? Ça va être élève dans Duke Obu 4?
Non. Non, mais c'est vrai qu'on ne propose pas on ne m'imagine pas tout de suite avec un enfant et tout. J'espère que c'est en train de changer.
Non, mais j'ai bien compris. Ma question était, vous allez jouer quoi alors?
Bah justement, un mec qui a du mal à grandir.
D'accord. Oh, non, dingue. En parlant de ça, vous avez toujours peur de dormir dans le noir?
Oui. Oui, je mets tout. Ce qui est génial, c'est que maintenant j'ai des enfants, donc j'ai une justification, mais je mets toujours une petite veilleuse, quelque chose. Je peux pas me. C'est vraiment un truc d'enfant, c'est-à-dire que si je me réveille dans le noir complet, j'ai l'impression d'être aveugle. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie phobie.
Extraordinaire. C'est pas comme si vous aviez un chat chez vous.
Non.
Merci à tous.
Allemand,
Angèle Châtelier qui était là. Ah, je vous avais pas vu, Angèle, excusez-moi. Merci, Max Boublil. Je rappelle votre nouveau one-man show. Il s'appelle Nouveau Spectacle. Ouais. C'est à l'Européen. Et nous, demain, on se retrouve à 9h pour Culture Média avec Michel Field qui va nous parler de la deuxième édition du Grand Oral, le concours d'éloquence.
Michel Field.
Bah, évidemment, il a commencé très tôt. Ouais, pareil. Concours d'éloquence de France 2. Il sera accompagné de Bill François qui était le gagnant, le vainqueur de la première édition. édition. Et puis, peut-être a-t-il bercé votre enfance, Pierre Palmade.
Oui.
Pour la tournée de son spectacle, Pierre Palmade joue ses sketchs, c'est bien la moindre des choses. Merci Angèle, merci Margot, merci Céline, merci Max Boublil. À demain.
À demain.
C'était Philippe Vandel sur Europe 1. Et dans un instant, restez là, Anne Roumanoff débarque avec toute sa bande et leurs invités aujourd'hui, Marie-Agnès Gillot, Jérémy Lipman et Thomas Fersen sur Europe 1.